Bye.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Morgane Cadimonjean, Florence Mendez. Oui. Tu fais trop de bruit avec tes mains, Florence, les gars. Avec Tanguy Pastureau, ah. Daniel Morin, oh, nos invités, bon. Isabelle Gilinas et Valérie Le Mercier. Oui. On va parler avec elle des sœurs bien-aimées au théâtre, incarnées par donc Isabelle Gélinas, Valérie Le Mercier, Patrick Catalifo, tout ce beau monde mis en scène par Brigitte Buc, qui est l'auteur d'ailleurs de cette pièce, qui avait déjà travaillé, me semble-t-il, avec Valérie Le Mercier, on en parlera. Je pense que c'est une amitié, une longue amitié qui les réunit. Ces sœurs bien-aimées, ça fonctionne tellement bien, on croit en plus que Isabelle Gélinas et Valérie Le Mercier sont réellement sœurs.
Enfin, qu'elle le croit aussi.
Et on va découvrir que c'est la première fois qu'elles travaillent ensemble. Et c'est au Théâtre Antoine jusqu'au 31 mars. Mais d'abord, blind test.
Daniel.
Oui.
Mademoiselle de Rochefort.
Mais parfait.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mis face à la
mirée. Ouais. L'histoire de ta vie, non?
Qui chante ça?
Tanguy.
Oui. Tu m'as pas fait une Leïla un peu?
J'étais parti sur Brassens, effectivement, et je me suis rabattu sur Sorcerie au dernier moment.
Belle technique. C'est moi qui l'ai dit d'abord.
Oui. On le dit en même temps, je propose.
Non, moi je propose que ce soit toi qui est le... Non, non, c'est ton dit.
Morgane,
oui.
C'est l'âme.
Oui.
Voilà.
Ok, d'accord.
T'as la Corée en plus?
Parce que j'avais la mer dans mon cœur. C'est toi et moi, petite sœur. Toi et moi, petite sœur.
C'était bien.
Qui chante ça?
Morgane,
oui.
C'est Ben, l'oncle Soul.
Oui.
Ouais, mais j'ai une petite sœur. Donc.
Donc toutes les chansons
je
de petite sœur,
tu les as? Bah ouais.
Quel est son prénom?
Anna.
Anna.
Il y a que comme un con, j'ai eu un frère.
Ça tombe bien.
Ça sert à rien.
Un frère, non, c'est rien,
oui.
Je suis d'accord. Qui chante ça?
Oui, oui. Bah si, on connaît, oui.
Ouais. Voici, Anne Masserade.
Oui.
Bravo.
Chédid.
Oui,
Chédid.
C'est pour ça que
oui.
Quand t'as dit Anna, j'ai dit ça tombe bien. Mais t'as pas vu le cadeau.
J'étais pas concentré. Je l'aurais pas eu.
Production 1984.
J'ai
60 ans,
j'ai
je suis
ouais.
Non, mais il y a du synthé, quoi.
On est très années 80.
Il y a du synthé.
Les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements.
Mais une chanson tristement d'actualité quand on sait quel est le sujet de cette chanson sur les mêmes extrêmes qui font, paraît-il, de la politique.
Arrêtez.
Bon, on n'est pas là pour ça. Parlons
oui,
musique.
Exactement.
Qui chante ça?
Morgane.
Oui.
Clara Luciani.
Oh là 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 là.
J'ai fait dire George Michael. Pourquoi?
Alma Soran, c'est en 85, me dit JV.
Eh voilà.
Bien joué.
Mais il y a pensé en 84.
Toi, tu l'avais en avant-première, c'est pour ça.
Voilà. Pourtant, j'étais personne à l'époque.
J'avais moins de 3 ans.
Dis-moi, ça, c'est George Michael?
Ouais. Ouais.
C'est pas le début de Too Funky?
Si, un peu.
Si. Ah, ouais. Merci, Zorgi. Heureusement, quelqu'un s'y
passe. Attention!
C'est le Super Banco.
C'est le Super Banco. Pour l'instant,
le système
3 Banco. Points pour Morgane, 2 pour Daniel, 1 pour Tanguy. Il y a sœur dans le titre, c'est même le titre, ma sœur.
Daniel.
Ouais.
Bent. Vita.
Qui?
Amel Bent.
Oui.
Oh, ah, bon Daniel. Incroyable.
Mais c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit Vita.
Amel. Ah oui. Bah oui.
Je l'ai dit.
Ah, t'as pas dit Florence.
Si, j'ai dit Florence.
Ah la régie.
Ah non, mais c'est moi qui dis.
Non,
qui
mais
bon, Vito,
la régie me dit que Daniel a dit avant.
C'est faux, j'ai dit Florence Vita.
J'admire cette élégance. J'admire ton fair play. J'admire la victoire de Daniel Morin. Et merci sur Amel Bent. Et merci à
Isabelle Gélinas,
c'est Valérie
Le Mercier. France Inter, la bande originale.
Je demande le VAR.
Bienvenue, on vous accueille pour parler de ces sœurs bien-aimées, signées Brigitte Buc. Tout va bien, Isabelle?
Très bien. Je suis avec ma sister.
Oui, voilà.
Sister Act.
Non.
Exactement. C'est le cri que Isabelle Gélinas a poussé dans le couloir, d'ailleurs, en arrivant tout à l'heure. Vous avez crié Sister Act en croisant Valérie dans le couloir pour vous retrouver avant le début de cette émission. Les sœurs bien-aimées, comment est né ce projet? Parce que Brigitte Buc, c'est votre copine de toujours, c'est ça, Valérie?
On se connaît depuis qu'on a 15 ans. On s'est connus au lycée Jeanne d'Arc à Rouen.
et on a fait ensemble le conservatoire de Rouen et on est passionné par le théâtre et ce que je depuis qu'on a 15 ans.
C'est fort de se rencontrer au lycée Jeanne d'Arc à Rouen et pour brûler, voilà, les, pour brûler les planches. Après, oh, écoute, il fallait bien que je la fasse.
Bah oui, voilà. Donc, c'est ça. Alors, nous avons... Brigitte a écrit 3 pièces. Le jardin, dans lequel Isabelle a été merveilleuse, avait le rôle principal. Ensuite, un temps de chien, dans lequel...
Valérie était merveilleuse.
Je jouais avec Patrick Catalifo. Oui. Et nous sommes réunis tous les trois, parce que nous sommes trois. Bien sûr qu'il y a 2 sœurs, mais il y a aussi un garçon qui a son importance.
Je l'avais cité, absolument, oui.
Et donc, on est réunis. C'est un voilà. Donc, c'est alors, la quintessence avant... Brigitte Buchienne. Donc, on est Isabelle, Patrick et moi réunis dans cette 3e pièce qui est très drôle et très sensible et très voilà.
Oui, et puis très proche d'une réalité, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de frères ou de sœurs, en tout cas de familles, peuvent se reconnaître aussi dans une situation, même si évidemment le trait est grossi dans le but de la comédie, mais l'idée même de se dire que suite à un héritage ou en tout cas une transmission d'un bien, et en l'occurrence là c'est une bergerie.
La pièce se passe dans une bergerie.
Voilà. Ouais. Qu'une sœur revienne sur les lieux pour voir ce qui va se passer avec cette bergerie, peut-être même y habiter ou en tout cas ou la vendre, tout le débat est là, mais revient après des années sans avoir vu son autre sœur. On sent des tensions, on sent quand même aussi énormément d'amour. Et d'ailleurs, la tension est d'autant plus forte que l'amour l'est,
ouais,
l'est aussi.
Elles se sont aimées follement, elles ont été livrées à elles-mêmes, tous les trois d'ailleurs. Grandi dans la campagne un peu sans parents, avec des parents déficients mentaux en tout cas. Elle en a un peu hérité, la petite, Pascal, ouais. Isabelle. Ouais. Et voilà, et elle revient s'échouer, c'est vraiment, elle vient s'échouer là. En sortant de
et puis il y a cet homme entre vous, Valérie, Isabelle, Patrick Catalifo l'incarne, et cet homme qui est aussi, on a le sentiment qu'il est un peu au bout du rouleau et qui est ballotté. Alors c'est un amour d'enfance. Il y a des soupçons de choses qui ont pu se passer, en tout cas dans le passé. Je voulais pas trop en dire.
Ah pardon.
Mais non, mais c'est vous qui vous décidez. Vous dites ce que vous voulez.
Bon, auditeur, oubliez ce que vous venez d'entendre.
Mais non, mais on se demande d'ailleurs s'il est d'ailleurs encore amoureux malgré les années.
Je pense qu'il est encore amoureux. Il a essayé de sortir des Cévennes. Il a essayé de travailler en ville et il est parti. Il a eu un bon travail. Il a eu un amour dévastateur, un travail qui ne lui a pas convenu parce que c'est un être sensible, tendre et généreux. Il a été un peu broyé par la machine.
Ouais, il est fatigué par la vie. Hein.
Voilà, et il revient garder ses chèvres. Il est revenu, voilà, et donc ils ont passé leur vie. Le personnage de Valérie, Michel, et le personnage de Patrick, Rémi, ils ont passé leur vie plus ou moins côte à côte, pas loin l'un de l'autre dans ce. C'est même plus le village, on est en dehors du village des Cévennes.
Oui, puis d'un côté, on ne sait pas non plus si on est dans une bergerie à retaper presque bobo pour en faire des chambres d'hôtes. On ne sait pas trop
ça,
si
c'est mon projet fou.
Si c'est le parisianisme qui envahit la campagne ou si c'est la campagne qui fait du bien et qui reste naturelle.
Non, c'est son personnage qui a l'intention d'en faire des chambres d'hôtes et tout ce que moi je trouve absolument ridicule, mais elle veut ça, elle veut s'installer, elle veut revenir, elle veut voir des gens authentiques, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et sans pour autant manger de fromage de chèvre.
Voilà, et c'est ce qu'elle vient faire. Elle a un projet un peu naïf, mais voilà.
Et puis on va découvrir au fur et à mesure que c'est quand même l'amour qui est le moteur de toute cette histoire, que ce soit le comportement de votre, c'est un mari ou un amant, c'est un mari dans la pièce. Vous êtes mariée, Valérie?
Je suis mariée, mais j'ai eu une petite aventure
avec un grec qui avait des mains incroyables, mains de ce grec.
Heureusement.
Et puis quant à vous, c'est plutôt le mari que vous avez fui, dont vous voulez plus entendre parler.
Un mari toxique, je pense. Mais la grosse différence entre nos deux personnages, c'est que le personnage de Michel, que Valérie joue, elle s'est débrouillée toute seule, elle a porté les parents qui n'allaient pas bien. Moi, j'ai fui à 20 ans.
C'est la grande sœur.
Et la grande sœur
qui vous a aussi un petit peu élevée. Ouais.
Elle a pris le relais, elle s'est occupée des parents. Elle n'a pas pu aller au bout de ses études parce qu'il fallait qu'elle s'occupe des parents. Donc, elle a porté sa vie. Voilà. Et alors que mon personnage, elle a subi sa vie avec un homme qui n'était pas fait pour elle, mais elle a cru que ça irait. Voilà, elle a pas. Comment dirais-je, elle n'a pas vécu vraiment sa vie, donc elle est encore dans des trucs, des projections d'enfant, de je vais faire, on va faire une maison d'hôtes, je veux que ma grande sœur m'aime à nouveau. Enfin, elle se rend pas compte du temps qui a passé, des dégâts qu'elle a causé.
Elle vient dans une situation d'échec et elle espère rebondir.
Voilà, elle espère rebondir.
Elle espère
surtout
être accueillie
avec sa sœur.
Je pense que c'est ça aussi les sœurs. Moi j'en ai trois. Isabelle en a une, mais je pense que s'il m'arrive une couille, c'est chez mes sœurs que je vais aller. Et c'est là que je me sens bien, même quand vraiment ça va pas, je viens prendre un repas chez l'une ou l'autre, et quelque part, c'est des très très bons moments. Heureusement qu'il y a ça. Et là, je trouve que ça se fait pas. Moi, je connais pas heureusement, d'être fâchée avec mes sœurs, ça ne m'est jamais arrivé, et j'espère jamais de ma vie.
Non, mais on peut se dire, en tout cas, lorsqu'il y a des tensions ou des fâcheries entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, de toute façon, il y a un moment où l'amour fraternel, la sororité.
Oui, mais dans plein de familles,
ça ne se fait pas.
Il y a plein de gens qui sont fâchés à vie. J'entends plein de fois autour de moi des gens qui sont fâchés avec leurs frères et sœurs.
Mais parce qu'on n'en parle plus.
Oui, il y en a beaucoup, mais la majorité.
Voilà, je pense que la majorité s'aime.
Ouais.
C'est banal, donc ça se précise.
Et c'est vrai que c'est souvent à l'occasion de petites cuillères ou d'armoires à se partager.
Des héritages, c'est
voilà,
ça.
Voilà, mais il y a quand même des gens qui sont fâchés à mort. Moi, ça me surprend, parce que c'est du chinois pour moi. Je comprends pas qu'on soit. Je pense que mon garde-fou, c'est de me dire, quoi qu'il arrive, je serai jamais fâchée avec.
Alors justement, l'idée de cette pièce, c'est à la fois de rire d'un héritage, de rire d'une fâcherie, de rire d'une tromperie ou des histoires d'amour. C'est-à-dire tout ce qui peut faire que deux sœurs se détestent, même si on peut avoir le sentiment que vous détestez au début, en tout cas que vous vous énervez l'une l'autre.
C'est-à-dire, on a du ressentiment. Moi, j'en ai beaucoup pour elle parce qu'elle m'a abandonnée, elle m'a laissée tomber et qu'elle revient comme ça, sans me prévenir. Elle est dans une espèce de naïveté, elle pense faire une surprise, elle pense que tout va bien se passer, qu'on va l'accueillir à bras ouverts,
qu'on attendait qu'elle, oui, c'est ça,
à la mort moelle-neu. Et puis non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on sent évidemment qu'elles se sont adorées, que c'est la personne.
C'est tout sauf de l'indifférence.
Dans leur propre vie, c'est la personne la plus importante dans leur propre vie, c'est sa sœur.
Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas sont nos invités jusqu'à midi et demi. Elles sont au théâtre avec Patrick Catalifo dans cette pièce mise en scène par Brigitte Buc et Gersande Michel, que je n'ai pas cité tout à l'heure. La pièce a été écrite par Brigitte, qui est également nommée à vos côtés, évidemment, pour Aline. On va en parler tout à l'heure pour ses formidables nominations au César. La pièce se joue, je le rappelle, au Théâtre Antoine jusqu'au mois de mai. On est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde ici. Voici Morgane Gabinet. Et Morgane ne vous aime pas.
Non, Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, je vous aime pas. Vous venez nous parler aujourd'hui des sœurs bien-aimées. Et depuis le début de cette émission, je vous regarde en me disant que mais c'est évident que vous fassiez une histoire de sœurs toutes les deux. Je m'en étais pas rendu compte, mais il y a un truc. C'est comme
fou,
quand tu mets Daniel à côté d'un grizzly, c'est évident en fait. Mais c'est très particulier la sororité. Je parle de la sororité du sang, hein, pas la sororité qui te fait aller vers une inconnue qui se fait emmerder dans la rue en disant « Chloé ?» Mais qu'est-ce que tu fais ici, ça va ? D'ailleurs, histoire encore malheureusement vraie, merci à la fille qui est venue me demander si ça allait dans la rue la dernière fois quand elle m'a vu pleurer. On a finalement beaucoup ri vu que j'étais en chiale parce que, encore une fois, je m'étais faite pleurer toute seule en imaginant mon propre enterrement sur le générique du Roi et l'Oiseau. Mais en vrai, si j'avais eu un vrai problème, c'est cool d'être venue. Les amis, si vous me voyez en ce moment chouiner dans la rue, tout va bien. C'est simplement parce qu'on est au mois de janvier. Je suis fragile, j'aime pas l'hiver et j'ai déjà pleuré de froid. Non, je parle de la sororité de sang. La sororité heureuse ou malheureuse avec une vraie sœur, cette personne avec les mêmes ou presque parents que toi, avec le même ADN et une nature de cheveux beaucoup plus cool que la tienne, la connasse. Ça, c'est la magie de la grande. La grande loterie de la génétique. Ma sœur Anna, elle a les yeux en amande de sa mère, le port de tête de sa grand-mère, ses cheveux, on dirait Diana Ross qui a avalé Shakira, et Morgane, elle a les pieds plats de papy. Voilà. Et les blagues de tonton. Mais c'est comme ça, les aînés. T'es un peu l'équivalent de la première crêpe. Mais attention, c'est comestible, hein. Dis donc, je suis un petit peu peu cramée, mais tartinez-moi du Nutella dessus, on va voir si je suis pas délicieuse. Donc moi, ma sœur, elle a 13 ans de moins que moi. En 1530, j'aurais pu être sa mère, on aurait considéré que c'est une grossesse gériatrique. Ma sœur, c'est une des seules personnes au monde avec qui je peux être 100% moi-même, défaut y compris. Parce que les autres, moi je leur présente la belle face, le côté doux sucré de ma personne. Elle, ça fait 10 piges qu'elle s'envoie du yaourt nature avec le sourire. La phrase qu'elle m'a le plus répétée dans nos vies, enfin la deuxième, hein, la première phrase étant « t'as pas 15 euros pour que je t'achète un cadeau », la phrase la plus répétée c'est « non mais Morgane, pas à moi en fait ». Et c'est chouette d'avoir quelqu'un avec la même gueule que toi à qui bah tu peux pas la faire. Ma sœur, elle me regarde des heures raconter ma vie aux gens, que les tournées, les spectacles, la vie, l'amour, c'est génial, ça se passe toujours bien, en sachant pertinemment que ce week-end, elle va recevoir un selfie de moi en train de crever de solitude dans une loge à poteau combo. Et c'est ça, c'est trop beau, c'est ça ma sœur, c'est une technicienne de l'ombre. Elle me regarde mentir à la terre entière en ayant le script sous les yeux, en se disant « oula, bon, là elle improvise clairement, mais je vais continuer à l'éclairer, on sait jamais ». Et parfois elle me rend dingue, elle me fait tellement bouillonner la gamine que Laurent Mariotte, il m'a déjà balancé une langouste dessus en se disant « franchement, ça va cuire ». Mais attention, par contre, faut bien lire la notice des sœurs. Elle m'agace, mais il y a que moi sur Terre qui ai le droit d'être agacée par elle. Si une tierce personne prononce à voix haute « elle est chiante ta sœur », je sors un accent marseillais de ma poche et je commence à t'insulter, tes grands morts. D'où tu critiques ma sœur? T'es ma sœur pour critiquer ma sœur? Non, alors ferme ta gueule ou je te nique ta sœur. Ouais, c'est d'énergie 12. C'est l'accent de Dubaï.
Des Marseillais.
Donc, tout ça pour dire que les fratries, c'est souvent compliqué, injuste, parfois ça marche pas et c'est pas grave. Moi, j'ai été fille unique pendant 10 ans avant qu'on me rajoute du monde sur la banquette arrière. Et depuis, c'est souvent compliqué, injuste, mais parfois, bah, vous savez quoi, je pense à tous les gens sur Terre qui connaissent pas ma sœur, et franchement, bah, j'ai de la peine pour eux.
Joli, merci Morgane. Et t'es pas à Ponto Combo ce week-end, t'es dans un très bel hôtel à Bruxelles. Tu vois, c'est chic.
L'hôtel Ruy.
Tiens, j'ai fait ça pour ta sœur. Anna.
Si je te disais ce que j'entends.
J'ai dit.
Oui, c'est trop tard. On l'a fait tout à l'heure. Hélène, Elisabeth, Aude, vos sœurs, Valérie Lemercier, ont chacune un surnom. C'est vous qui leur avez donné ce surnom?
Non, c'est nous-mêmes. Alors, et on en a même plusieurs. Donc l'aîné s'appelle Glinchklenchkl. On peut aussi appeler Myline si on veut. Moi, je m'appelle Granstre, qui est devenu Grand String, qui est devenu en anglais, puisque je suis un peu international, FBS, qui veut dire fucking big string. Donc, c'est comme ça que je signe. Elisabeth s'appelle Besque ou Besquette. Et Aude, alors Aude, c'est la dernière, elle est arrivée très tard. Alors, c'est six o'clock, à mi-quiz, à tennis, ou à la.
C'est très long comme.
Voilà, donc on a. Oh, voilà, et Glinchklen, c'est très dur, faut vraiment connaître l'orthographe pour bien l'écrire. Et on s'appelle toujours comme ça. Salut Glinchkl. Mais Glinchklen, on peut aussi l'appeler Glinchkl, ça va plus vite.
Vous aussi, Isabelle Ginas, vous avez des codes avec. Ou c'est la famille Le Mercier qui a un vrai problème ou...
Moi, ma sœur s'appelle Valérie déjà, pour commencer.
Sa sœur s'appelle Valérie, voilà. C'est sa grande sœur.
Voilà. C'est génial.
C'est ma grande sœur. Non, je, quand j'étais petite, je n'arrivais pas à dire son prénom, donc je l'appelais Yiyi, donc c'est resté un petit peu. Plus longtemps, et puis non, c'est fini. Elle
vous êtes d'accord avec ce que Morgane a traduit dans l'amour de sa sœur, c'est-à-dire de dire que s'il y en a bien une à qui on peut pas mentir, et c'est ce qui se passe aussi dans la pièce d'ailleurs, c'est que chacune voit à travers le paravent de l'histoire racontée de l'autre, ce qui se passe réellement.
Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé « t'es pas ma sœur pour critiquer ». Et
t'es qui pour critiquer ma sœur?
Bah oui, il y a un amour inconditionnel.
Prête à tout pour la défendre, ouais.
Bah oui, bien sûr.
Et dans la pièce, on se demande si cette... Il n'y a pas besoin de la défendre, mais en tout cas, chacune voit clairement dans le jeu de l'autre.
Bah, on se connaît tellement.
Mmh.
Même en se fâchant, même en s'engueulant.
Et on aime à s'engueuler. S'engueuler avec sa sœur que de se faire un peu chier avec. Mmh. Voilà, en l'occurrence, moi, j'ai un mari qui s'emmerde et qui est. Voilà, qui est un peu déprimé.
Dans la pièce.
Dans la pièce.
Oui, parce que il y a eu un flottement là dans le second
Zénio. Non, dans les sœurs bien-aimées au théâtre Antoine. donc, finalement, c'est plus marrant d'aller s'engueuler avec elle. Et à un moment, elle lui dit, va-t'en si tu veux. Elle lui ouvre la porte. Et puis, en fait, moi, je me rassois.
J'adore ce moment.
Parce que je préfère me friter avec elle que me faire un petit peu chier chez moi. Mais quand on a les gens, c'est comme les boîtes de petits pois, hein, quand on a les gens sous les yeux tout le temps, on a plus envie de les manger. n'est-ce pas?
C'est comme, j'avais pas l'image des boîtes de petits pois. Oui, je vois très bien.
À une époque, quand j'étais jeune, on disait il faut toujours avoir une boîte de petits pois chez soi.
Évidemment.
Et donc les gens achetaient une boîte de petits pois pour l'avoir chez soi, et on s'est aperçu que on l'avait chez soi, mais qu'on la mangeait pas, puisque vous savez bien que les choses qu'on voit tous les jours dans un placard,
on les voit plus.
Réchauffé avec un petit peu de beurre, c'est tellement.
Oui, mais on l'avait là. On a laissé périmer la pub, c'est qu'on l'avait chez soi et qu'on la consommait pas. Donc voilà. Donc, et elle, en plus, comme je l'ai pas vue depuis 20 ans, on a plein de choses à se dire.
Alors, ce qui est formidable, et Morgane Cadignan l'a souligné, c'est que c'est totalement crédible en termes de casting. C'est-à-dire, sœur, c'est
incroyable. Elle ressemble à ma petite sœur Elisabeth, je ressemble à sa grande sœur Valérie.
Et vous n'aviez jamais joué ensemble?
Non. Et elle est québécoise, donc, parce que moi, je suis devenue un petit peu. Oui. Donc, il y a un truc.
C'est fou. Non, mais c'est incroyable que ce casting se soit monté par aussi amitié, puisque vous aviez chacune dans votre coin travaillé avec Brigitte.
On avait travaillé avec Brigitte, mais moi, j'ai admiré Isabelle plusieurs fois au théâtre.
Alors que moi, non, j'admirais pas tellement Brigitte.
Et non, mais on s'était quasiment jamais vus.
Non, on s'était vus chez Brigitte.
Nous n'étions pas des amis et nous n'avions pas nos 06. Enfin, maintenant, c'est des 07 pour les jeunes, mais c'est la première fois qu'on travaille ensemble et qu'on se fréquente.
Mais Brigitte est la petite fée Clochette qui
est une faiseuse d'amitié, c'est ça, de liens et de liens et fidèle visiblement à travailler avec chacune d'entre vous et également avec Patrick Catalifo. Ouais. Alors l'homme n'est pas là, mais l'homme a un rôle très important dans cette pièce, même s'il n'a pas toujours le beau rôle, mais il est un peu ballotté entre l'une et l'autre. Et il est au bout du rouleau.
Il n'arrive plus à suivre parce que évidemment il a été très proche de mon personnage et du personnage de Michel, puis il a passé sa vie quand même à côté de chez Michel.
Ouais, c'est ça.
Et là tout d'un coup les deux sœurs qui se réunissent, c'est toujours pareil dans un trio, il y a toujours à un moment donné il y a des alliances, il y en a un qui est un peu exclu, puis ça change et puis donc lui il a du mal un peu à trouver sa place.
Ça c'est l'un des codes théâtrales qui fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire le côté à trois et théâtro, évidemment. Oui. Oui, t'as raison, l'un des codes théâtro, merci. De voir qui va aimer qui ou qui va être exclu.
Parfois c'est lui qui est exclu, parfois c'est souvent moi. Toi un petit peu.
Un peu aussi.
Chacun son tour, on est exclu des deux autres, voilà. Et c'est ça qui est marrant. C'est un peu comme des enfants. Hein. On est un peu comme des enfants qui se chamaillent comme avant.
Voilà. En tout cas, on peut nous imaginer les trois petits dans la colline en train de jouer.
Et être déjà amoureux.
Et être déjà un peu amoureux.
À l'adolescence, sans trop oser faire quoi que ce soit, un genre d'amour secrètement caché. C'est vrai que vous revenez en étant une femme mariée en situation de crise conjugale.
Grosse crise.
Est-ce une opportunité ou pas pour que Patrick Catalifo se jette dans vos bras? Ben ça, c'est à découvrir au théâtre. C'est Sœur bien-aimée.
Alors, à quel théâtre?
Antoine, figure-toi.
L'Antoine, comme on disait avant. Nous jouons à l'Antoine.
Est-ce qu'il y a eu gros débat, grosse discussion sur l'affiche? Parce que mettre deux chèvres pratiquement de dos à l'affiche des sœurs bien-aimées, on est à quel degré d'humour là?
Alors, c'est moi qui ai fait l'affiche.
Qui l'avait dessinée?
Et Brigitte voulait pas nos photos.
Donc, deux chèvres.
Et ça se passe dans les collines, et lui, il garde des chèvres, et il y a des chèvres, et on les entend, et on les voit.
Mais vous voyez
et donc, il y a deux chèvres qui vous regardent comme ça. Il y a une jolie couleur rose, mais on en a un peu marre des affiches avec les photos des acteurs en gros plan. Enfin, voilà, il y a nos noms, il y a le titre de la pièce qui compte. Et on est deux petites chèvres dans la
petite biquette.
C'est ça que je voulais comprendre.
Voilà, et Brigitte ne voulait pas, de toute façon, voir nos têtes. On les voit quand on va les voir au théâtre, mais voilà. Avant, moi, j'aimais beaucoup les affiches où ça n'était que de la typo, il y avait que des noms.
Chaque théâtre avait sa manière de faire son affiche.
Oui, mais moi j'aimais beaucoup les affiches avec que de la typo. Moi j'adore les affiches de théâtre.
Par exemple, à la Porte Saint-Martin, c'est toujours comme ça.
Ouais,
toujours une très jolie typo.
La colline. Voilà. Et là,
je crois que Théâtre Saint-Georges aussi.
Nous sommes représentés par deux petites biquettes et ça parle de ça, on est des biquettes dans cette bergerie. C'est une pièce
qui devient chèvre à cause de l'amour et à cause
voilà,
des hommes.
Voilà, et je tiens à préciser parce que il y a tellement de pièces qui se passent sur des canapés parisiens. Et là, non, on est dehors. On est carrément, c'est même pas dans une bergerie parce qu'elle est ouverte totalement aux quatre
aux
vents,
collines.
Aux collines. On voit dehors. On rentre dans un théâtre pour aller dehors. C'est une pièce qui se passe à l'extérieur. C'est complètement ouvert, le décor. De genre, hein, c'est très très beau. Oui. Et on est, voilà, on n'est pas, il n'y a pas de canapé. Voilà.
Les Sœurs Bien-Aimées, c'est au théâtre Antoine à 21h et ce jusqu'au mois de mai.
Avec... Et on joue deux fois le samedi. Voilà.
16h et 21h.
Très bien. Voici venir Florence Mendès.
L'acteur Peter Dinklage en Tyrion Lannister dans Game of Thrones s'est insurgé contre la représentation arriérée des nains dans la nouvelle version de Blanche-Neige. La prod avait pourtant fait un effort d'inclusivité pour incarner Blanche-Neige. Ils ont pris Rachel Zegler, une actrice d'origine colombienne. Mais enfin, Blanche-Neige colombienne, tu penses moins à un conte de fées qu'à un gros saladier rempli de coke. Calmez-vous, Morgane. Et on comprend qu'il soit vénère Peter Dinklage. En tant que personne de petite taille, il a toujours refusé les rôles dégradants, le rôle d'un lutin dans un film de Noël, le rôle d'un gnome dans Harry Potter, le rôle principal dans un biopic sur Nagui. Et attends, le mec, il connaît pas Fort Boyard. Si un jour, Peter Dinklage, il sait qu'on a rebaptisé une personne atteinte de nanisme passe-partout, la dernière énigme du père Fouras, elle sera confiée à la police criminelle de Charente-Maritime pour tenter de savoir qui a bien pu stranguler le vieux avec sa propre barbe dans sa putain de vigie. Et les noms des nains, on en parle, joyeux, dormeurs, grincheux, on dirait qu'ils se sont inspirés de mon cycle menstruel. Alors, c'est évidemment pas le seul problème dans Blanche-Neige. La question du baiser non consenti a déjà été abordée. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que le prince embrasse une morte. On aurait pu rebaptiser le conte. Certains l'aiment froide. De toute façon, c'est pas juste Blanche-Neige. Tous ces contes, ils sont nazes. La Belle au bois dormant, quelle meuf, ça fait rêver. J'ai d'autres ambitions d'attendre qu'un mec vienne m'embrasser pendant que je fais un cosplay de Michael Schumacher. Il y a plus rien, je vous ai manqué. Il y a plus rien de magique dans ces histoires. Cendrillon et ses 12 coups de minuit. Les 12 coups de minuit, on dirait ma soirée speed dating hier soir. Et puis, je peux te dire que le mec qui me poursuit à travers tout le pays parce qu'à une soirée, j'ai oublié un truc, je lui colle une mesure d'éloignement d'urgence. Vraiment. Ce qu'on veut nous faire croire comme conneries, c'est dingue, genre les cochons, ils peuvent construire des maisons à base de paille, de bois, de briques. Alors pourquoi ces cons s'entassent à plusieurs centaines dans 10 mètres carrés? Les 101 dalmatiens, mais t'imagines vivre avec 101 clébards? Moi, je veux voir ta gueule au prochain confinement, là. Et puis, comment tu veux que ça parle aux jeunes encore? Le petit chaperon rouge, la petite, elle toque à la porte et on lui répond « Tire la bobinette et la chevillette, chère rat. » Quoi? Tire la bobinette et la chevillette. Oh putain, tire le loquet, quoi. Vas-y, là, tu sais pas dire la serrure comme tout le monde, baltringue. En vrai, la gamine aujourd'hui dans les bois, elle a moins de chances de se faire bouffer par un loup que de se faire buter accidentellement par un chasseur. Non mais il faut dépoussiérer tout ça, vraiment arrêter avec ces représentations clichés, genre Aladdin arabe, roi des voleurs. Alors que ça motive pas Kev Adams à nous faire un Alad 3, mon fils de 11 ans vénère Kev Adams, vraiment, sauf que quand il l'a rencontré, il lui a dit, hier, on a regardé tous tes films, seulement on les a piratés parce que maman, elle a dit qu'elle payerait pas pour voir ça. Et c'est une histoire vraie. La Belle et le Clochard, allez sérieux, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une belle fille en couple avec un clochard, je veux dire à part Jane Birkin. Mais le pire, c'est cette petite phrase de fin. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Je rappelle qu'il n'y a rien de plus antinomique. Allez.
Merci Florence. Florence, ce soir et tous les jeudis au Métropole, à Paris et bientôt Bordeaux, Lille, Marseille.
Tout à fait.
Tournée mondiale. Les Sœurs Bien-Aimées, une comédie signée Brigitte Buc avec Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo. Nous parlons de cette pièce où vous avez aussi vos personnages ont des noms de garçons. En tout cas, on pourrait entendre Michel Pascal sans les E à la fin. Ce qui est évoqué d'ailleurs dans la pièce en matière d'éducation, de regard sur les hommes, sur la féminité, enfin, il y a aussi...
Il y a une petite malédiction chez les filles bien-aimées depuis des générations, il y a des petits problèmes mentaux. Donc, pour éviter ça, mais ça n'a pas forcément...
Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Ils nous ont donné des prénoms de garçons pour qu'on ne soit pas des filles. Voilà, mais voilà.
Et donc, la passion de cet amour, de ce lien entre les deux sœurs est poussée à l'extrême, parce que finalement, L'énervement, la fâcherie, c'est de la jalousie. C'est tu m'as quitté, c'est...
C'est de l'amour.
C'est ça.
Plus forte est la colère ou la haine ou le ressentiment, ouais. plus c'est la preuve qu'il y a quelque chose de vrai et de fort entre les deux.
En tout cas.
C'est tout sauf de l'indifférence. Ouais.
Vous me faites regretter d'avoir eu qu'un frère. Et en plus, le mien, qui est... on l'embrasse.
Tu as des choses à dire ?
On l'embrasse.
Cette pièce, ce plaisir de se retrouver ensemble sur scène, tous les trois, avec Patrick Catalifo, dans l'idée et dans le travail que vous faites aussi à côté, dans les fictions, dans les films, tout est une question, on le dit souvent ici, mais de tempo, de rythme, de jouer ensemble. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas au théâtre avec une troupe. Valérie Lemercier, ça faisait 7-8 ans, c'est ça, que vous étiez, vous n'étiez pas sur les planches. Tout ça est un exercice délicat, qui se travaille, on se rend pas compte, nous, quand on est dans la salle
fragile, c'est un équilibre, il faut qu'on soit bien, ensemble, c'est des personnages qui évoluent ensemble et ça commence doucement et ça monte, ça part après dans une espèce de folie, mais il faut vraiment qu'on soit très attentif, faut qu'on se regarde, faut qu'on joue ensemble. C'est marrant parce que pour moi, les représentations, c'est comme les fruits. Si vous avez un kilo d'abricots, il y en a deux bons, puis il y en a le troisième est pas bon, mais c'est exactement ça, les représentations. Faut jamais des fois il y en a des très bonnes et le lendemain bim c'est un peu moins bien et puis enfin
alors,
voilà.
Ça dépend de quoi ça d'ailleurs ça dépend de sa
propre humeur.
Il y a tellement
de facteurs.
Il y a aussi
le public.
Je sais plus. Oui, c'est ce que j'ai
évidemment
dire.
L'état dans lequel on est. Parfois on a trouvé quelque chose. Je dis n'importe quoi. Le mercredi il y a quelque chose qui apparaît. On se dit ah c'est pas mal. Tiens j'y retournerai demain. Le lendemain on n'y arrive pas parce qu'on essaie de plaquer quelque chose. C'est ça a à voir avec l'abandon et en même temps la maîtrise et en même temps et surtout être ensemble.
Et parfois, on se dit, oh là là, on est samedi après-midi, on sort du lit, on a l'impression d'aller chez le docteur à se déshabiller à 14h. C'est un miracle. Et parfois, enfin voilà, c'est pareil en tournée, et c'est pareil en...
Est-ce qu'il y a des soirs où vous dites, le public a été bon ?
Oui, très souvent.
Ouais.
Très souvent. Moi, par exemple, hier soir...
Le public a été bon.
Hier soir...
Non, mais c'est la...
Bah, en même temps, on a joué que 6 fois le spectacle. C'est très très frais.
Ah, vous l'avez joué en public que 6 fois, mais vous l'avez travaillé énormément en amont.
Bien
en faisant
sûr,
des,
mais ça change tout avec le public. Il y a plein de choses. Sûr. On est cueillis.
Comme c'est une comédie,
il y a des choses on s'attend. Il y a des répliques. Je pensais pas qu'elle le ferait tant rire.
Ouais.
Il y a des trucs qu'on est cueillis par les réactions et qui sont là quasiment à chaque fois.
Et qui donnent le tempo aussi, la mesure, parce que quand il y a une réplique qui fait rire,
faut pas mordre,
c'est ça.
Le début de la descente pour repartir.
Et en attaquant un peu plus,
il faut jamais se reposer sur la veille qui a été très bonne parce que on n'est pas à l'abri d'un lendemain moins heureux. En fait, il faut être vigilant tout le temps. Il faut tout le temps jouer vraiment ensemble. Il faut être très unis. Et on l'est, ça se trouve, on apprend à se connaître, il faut écouter l'autre, enfin bon, il y a tout un truc, et puis évidemment le public, et l'horaire, et le jour, et chaque mardi, comme on n'a pas joué pendant 2 jours, il faut se refaire des italiennes dans les loges pour se remettre le texte en bouche. Enfin bon, voilà.
L'italienne étant une répétition du accélérée. Texte pour avoir le texte par cœur.
Elles ne sont pas des italiennes, pas les femmes.
Non, pas des italiennes
ni des allemandes. Voilà. Ça existe aussi, faire des allemandes.
Croyez bien qu'on le regrette.
Et vous, Valérie Lemercier, qui avez été seule en scène, comment vous faisiez quand il n'y a pas cette énergie un soir que l'autre va vous donner pour se la créer à soi-même quand on n'a pas envie?
Non, en fait, je n'ai jamais pas envie. Et puis d'abord, je suis pas quand je fais des spectacles, comme je joue des personnages, j'ai des partenaires.
Oui,
imaginaires, mais je veux dire, je ne parle pas au public, c'est pas des stand-up où je dis aux gens qui devraient éteindre leur téléphone. Je peux pas.
Vous avez du monde dans la tête.
J'ai du monde dans la tête. Surtout, je les vois, je leur parle. Donc j'ai tout le temps des partenaires. Donc, ils sont souvent bons.
Vous êtes déjà engueulé avec ou pas?
Parfois, ça fait chier. Et puis, je suis pas toute seule. Parce qu'on est une équipe et donc j'essaie d'être la plus concentrée possible. Mais j'ai des petites habitudes parce que j'ai tellement joué seule, des petites habitudes des fois de m'enfermer dans ma loge et tout ça machin que je commence à m'ouvrir un peu parce qu'elle est à côté, elle vient gratter, on se fait un thé et je suis en fait Je suis contente parce que j'ai des habitudes de rester par exemple une ou deux heures seule dans ma loge avant de jouer pour pas être trop polluée par des choses qui se passent.
Il y a par exemple une habitude au théâtre me semble-t-il et qui n'existe que quand on est plusieurs, c'est de se faire des cadeaux pour la première. Est-ce que vous avez sacrifié
Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Isabelle est arrivée en disant demain à la première, on n'a pas le temps, on avait beaucoup de répètes, on ne fait pas de cadeaux.
J'ai dit super. Elle a dit,
on ne fait pas de cadeaux, on les fera un autre jour, on n'a pas le temps. Et elle est arrivée le jour de la première avec des cadeaux.
Mais c'est pas fait exprès. Non. En fait, la vérité, c'est que je ne pensais pas trouver le temps, y arriver. J'étais stressée.
Ce qui fait que moi, pour pas faire des cadeaux alors que c'était
vous
prévu,
n'aviez rien prévu.
Voilà, donc moi c'est aujourd'hui.
Ah, c'est aujourd'hui ?
Oui. Donc mes cadeaux vont arriver ce soir. Mes cadeaux de première.
J'adore cette tradition au théâtre d'avoir chacun
avec un petit mot.
Une petite intention, oui. Et quel que soit, on n'est pas dans des phrases.
Et tout le
monde,
ce que je veux dire, c'est que.
C'est un geste.
On est trois sur scène, mais on est.
Plusieurs, il y a tout le théâtre. Une troupe. Et puis il y a la musique et de la chorégraphie, j'ai envie de dire.
Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre. Un lapin venir à lui et crier ainsi. Cerf, ouvre-moi.
Merci de nous rétablir la vérité parce que lui.
C'était mon italienne, je vous donne le texte.
Nous causer, moi j'ai dit nous parler ainsi et c'est crier ainsi.
Exactement. Et puis il y a la chorégraphie. Alors là, c'est.
Et un petit sirtaki.
Je ne veux pas déflorer la manière dont
on
ça va se passer.
On s'en révèle les belles mains.
Mais voilà, il y a. Une révélation chorégraphique pendant cette pièce. Les sœurs bien-aimées, la musique justement dans vos vies. On reparlera des rapports frères-sœurs avec Véronique Massieja qui sera notre invitée en quelques instants. Mais la musique, Valérie Lemercier, vous écoutiez dans les années 60. L'excellent Sidney Béchette.
On a le droit de parler ?
Oui.
Non, c'est mon père. En fait, c'était un 78 tours pour montrer comme je suis âgée. Très lourd, les gros disques très lourds.
Gramophone, c'était de la cire, hein, c'était épais.
Ah, c'était un 78 tours, non ? Oui, peut-être de la cire, en tout cas.
C'est pas du vinyle.
Il y avait sur notre platine 45, 33, 78, c'était le seul disque avec une pochette en papier et pas en carton glacé. Et mon père adorait danser, nous a appris à toutes ses filles à danser, les danses de salon, la valse, le tango, le rock. Et il écoutait ça, et pour moi, c'est la plus belle chanson. Et ça n'est pas mon choix, c'est lui qui écoutait ça, et c'était notre seul 78 tours. Voilà, donc,
quatre filles avec un papa qui aime danser, elles se battent pour être la cavalière de papa, pour se faire remarquer.
Il sait
ça bien, je suis sûre.
Voilà, il fait ça bien.
C'est juste.
Voilà. Et voilà.
Être une fille dans votre famille, ça voulait dire quelque chose de précis, de particulier en termes d'éducation.
Déjà, ma mère sont 8 filles.
C'est quoi ce soupir, Valérie ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que 4, c'est rien, quoi. Par rapport. Ma mère, elles étaient 8 filles et un garçon. Et donc, des tantes, des cousines, et toutes ces filles ont eu beaucoup de filles. Ce que je veux dire, c'est que.
Mais je veux pas tomber dans les clichés, mais est-ce que c'est, est-ce que la coiffure, les tenues vestimentaires, les jeux entre sœurs, et pardon si je fais du genrisme en posant ce genre de questions, mais vous avez grandi en jouant avec vos sœurs à la poupée, ou alors vous étiez plutôt cheveux courts,
j'étais un peu garçon manqué, je faisais du cheval. J'allais dans les champs avec mon père et j'étais dans les camionnettes. Mes parents étaient agriculteurs, on était dans les tracteurs, moi j'étais un petit peu le garçon manqué de.
Alors comment le milieu artistique rentre dans votre vie ?
Avec Brigitte au conservatoire à 15 ans, nous on devait toutes jouer d'un instrument, c'était comme ça. Moi, c'était le violon, et pour mes 12 ans...
C'est pas Brigitte, pardon, ce sont vos parents qui
non,
vous
accompagnent. Non, j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire d'arrêter le violon. C'était mon cadeau. Donc j'ai eu ce cadeau.
Pour les voisins
Je me suis aperçue qu'au conservatoire, il y avait une section que j'ignorais, qui était théâtre. Et moi, c'est tellement ingrat, le violon. Les premières années, il y avait souvent plusieurs cordes qui jouent en même temps. J'ai découvert qu'il y avait théâtre, et donc je me suis inscrite à théâtre. Et c'est la première fois que j'ai été acceptée quelque part. On m'a dit oui, tu peux. J'ai passé une fable.
Et vos parents vous avaient emmené déjà au théâtre à Rouen ?
Oui, beaucoup.
D'accord.
beaucoup. On imagine toujours que les agriculteurs ne vont pas au théâtre.
Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, mais oui. c'est, vous parliez de Brigitte et de votre
On allait au théâtre, on allait voir George Wilson, on allait voir... On allait beaucoup au théâtre de l'œuvre, on allait voir... mes parents nous emmenaient au théâtre et voir de la danse et voir des expos. Donc on nous cultivait un peu.
Et à quel moment vous avez voulu vous marier avec Thierry Leluron?
Ben, quand j'étais petite, parce que j'avais l'impression qu'il ne piquait pas.
Qui ne piquait pas.
Ouais, c'est-à-dire que j'aimais pas les barbes qui piquent et tout ça. Donc je me disais, lui au moins, il va pas me faire mal. Ce qui était possible. Hein.
Oui, ça.
Et je voulais.
C'est tellement vrai.
Je voulais habiter une maison blanche phénix, toute propre.
Qui ne pique pas.
Qui ne pique pas non plus. Et que des aliments blancs. Et avoir comme mari Thierry Leluron que je ne connaissais pas en tant qu'humoriste. C'était juste sa tête, j'ai l'impression qu'il était tout lisse.
Il avait une tête de bébé, bien sûr.
Voilà, donc je me disais, il va pas m'arriver trop de problèmes.
Mais Thierry Leluron, une maison phénix et une boîte de petits pois dans le placard, la vie est belle.
Le bonheur.
Voilà, la vie est belle. C'était un peu ça mon rêve de vie.
Dans les années 60, Isabelle Gélinas, vous écoutiez Barbara.
C'est parce que je t'aime.
Valérie Lemercier l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes née à Montréal, vous avez un papa québécois, architecte, une maman française, et on sait à quel point la langue française et la culture française est aimée
au Québec. C'est un petit îlot au milieu des anglophones, donc ils s'accrochent à la langue désespérément, et mes parents écoutaient, pareil que Valérie, moi dans les années 60, j'étais pas... Si j'écoutais les disques qu'on m'avait offerts, donc genre La Flûte Enchantée par François Perrier, ce genre de choses, mais... Mes parents écoutaient Barbara et je ne comprenais pas tout, évidemment, parce que j'étais petite. Et j'ai toujours aimé Barbara parce que j'ai commencé à comprendre la poésie, les mots, enfin, avec elle.
Et c'est l'amour de la langue française, parce que ce soit dans les chansons, dans les pièces de théâtre, dans les jeux ou dans les films, c'est cette musique de la langue française, cet amour. Parce que s'il y a bien un pays, un endroit qui défend la langue française bien plus qu'en France,
c'est le Québec.
C'est le Québec. Ils sont vent debout.
Et moi, quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient au théâtre. J'étais donc au Canada, à Montréal, et la Comédie française venait régulièrement jouer. Et donc, j'ai découvert Molière, Robert Hirsch, Jacques Charon. C'était ma. Et
j'ai... Robert Hirsch, avec lequel elle a joué le père pendant très longtemps.
Ouais. Formidable de Zeller, oui.
Ouais.
Formidable. Vous avez eu une éducation plutôt stricte. Je ne sais pas quel terme
envoyer. Oui, alors je dirais que j'avais une laisse
rigide.
Longue.
Une laisse longue.
Voilà, c'est-à-dire que j'étais quand même en laisse, mais elle était longue. Donc je pouvais aller quand même assez loin, mais quand même...
Est-ce que l'une comme l'autre, le fait de devenir comédienne ou de vouloir embrasser un métier artistique a inquiété à un moment vos parents, ou au contraire, c'était le résultat de tout ce qu'ils ont voulu vous transmettre?
Moi, ils étaient assez heureux... Enfin, pardon, je parle là.
Non, mais allez-y.
Mais ils étaient assez heureux... Bon, il fallait quand même que je leur prouve que je pouvais faire ça. Donc ils m'ont emmené chez Jean David, qui était le cousin germain de ma mère. J'avais, je sais pas, 16 ans ou 17 ans. Et ils me disaient, ah, tu veux être comédienne? Eh ben, on va aller voir Jean. Et donc je me retrouve devant Jean David à passer une scène de
sorte d'audition,
de Marivaux, à 3 mètres de lui. Et Jean David a dit à ma mère, une fois que j'ai fini, il a dit, il faut la laisser faire, elle est faite pour ça. Donc ça a été,
formidable.
Pour moi, ça a été
merveilleux.
Merveilleux.
Valérie, le regard aussi
moi,
de votre famille.
Moi, mon père m'a convoqué dans son bureau.
Convoqué.
J'allais aller à Paris, j'avais 18 ans, il m'a donné 1000 francs.
Waouh.
Et je me suis débrouillée avec ces 1000 francs pour donc c'est-à-dire que j'ai tout de suite fait des petits boulots parce qu'il fallait que je vive et que je ne vive. Je suis arrivée à Paris à 18 ans et j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie avec mon métier à 23 ans, voilà, avec Palas.
Alors avant ça, en effet, il y a eu le conservatoire de Rouen. On est dans les années 80. Là, vous écoutiez, vous dansiez même, j'imagine.
Toujours aimé la lambada.
Comment ne pas danser sur la lambada?
C'est génial, c'est un morceau génial. J'adore cette mélodie. Je trouve que c'est une des plus belles chansons. Et j'ai beaucoup fait de boom dans ma loge plus tard. Avec un briquet, j'avais un briquet qui jouait la lambada. On n'avait pas de disque. Et je vous assure qu'avec un briquet qui fait la lambada à 4, on peut faire une boom.
Vous savez que je suis l'animateur qui a lancé la lambada.
C'est pas vrai.
Vous n'êtes pas au courant de ça?
Non.
Pour l'anecdote, ça a été une chanson de musique TF1. C'était la musique de l'été,
oui,
TF1,
oui, oui.
Et Orangina.
Ouais.
Exactement. Ça a été lancé pour la fête de la musique. Et j'ai présenté la fête de la musique et j'ai pris des cours de lambada pour expliquer. Moi, je ne connaissais absolument pas ce gars. Et on m'explique.
C'est filmé aujourd'hui. Non, c'est pas filmé. Mais c'est génial cette danse. Il suffit de mettre ses jambes dans les jambes de l'autre et voilà.
Et s'écraser, ça fait mal. Ça peut faire très,
mal,
très mal.
Vous, ça fait mal à vous, mais pas à nous.
C'est parce que la cavalière était
trop
grande.
C'est vous le petit dans le clip.
Non, c'est pas moi le petit dans le clip.
Non, mais c'est tellement bien.
Un truc malsain.
Alors, les caméras étaient très en dessous des jupes. Hein. C'était ouais. Fallait que ça se... Voilà.
Ça n'existe plus.
Mais
ça.
Moi, j'ai une, c'est une danse que, et une musique que j'aime beaucoup.
Très
voilà.
Bien. Le conservatoire de Rouen, vous, comme souvenir, le premier souvenir que vous avez, c'est de dire justement, j'ai rencontré Brigitte là-bas, Brigitte Buc.
Oui, on s'est rencontré. Oui, on s'est rencontré au lycée et on est allé ensemble s'inscrire au conservatoire. J'ai vu une fille. C'était improbable l'accoutrement de Brigitte. Un kilt, un chemisier à pois en plumeti blanc transparent, sans soutien-gorge, des mocassins à talons. Des grands yeux bleus, elle était tellement différente de justement toutes mes cousines, toutes mes... C'était un mélange de candeur et d'assurance que j'avais jamais vu. Donc c'est qui cette fille? C'était voilà, et puis on s'est inscrit au conservatoire et puis on lisait toutes les pièces, c'est-à-dire que pendant que les autres allaient se faire bronzer sur la plage, nous on a passé des vacances entières à lire des pièces en grossissant, en mangeant des bonbons.
Vous êtes choisies pour être sœurs toutes les deux en fait.
Ouais, alors qu'on n'est pas, on n'a pas des rapports de sœurs du tout parce que j'ai mon lot de sœurs et elle a aussi une sœur. Et mais c'est en fait on travaille ensemble.
Ouais,
on a quand même.
J'entends.
On a écrit Palais Royal, on a écrit Aline, on a écrit un dessin animé, on a travaillé sur deux de mes spectacles ensemble. Et on aime travailler ensemble. D'abord, c'est très intime d'écrire avec quelqu'un. Moi, si on me collait un co-scénariste qui sent pas bon, avec qui... Non, mais on vit à 50 cm, on est sur le même ordinateur. Enfin, ça vous caillez, j'en
intime,
sais rien.
C'est intime.
C'est très, très intime. Ouais. Quand on écrit ensemble, on passe 9 heures par jour ensemble. Donc, je ne pourrais pas écrire avec quelqu'un avec qui je ne suis pas très intime.
Voilà. Isabelle Gélinas, dans ces années, fin des années 80, vous écoutiez David Bowie.
Pareil, en boom.
Évidemment, en boom, et tout ça au milieu du conservatoire que vous avez intégré, le conservatoire supérieur national d'art dramatique. C'est le
jour de mes 19
jour.
Ans.
C'est fort, ça.
Le jour de mes 19 ans.
Quel cadeau de la vie.
Ouais. Tu as eu le concours le jour de tes 19 ans.
J'ai su que j'étais reçue le jour de mes 19 ans. C'était un beau cadeau d'anniversaire.
Et cette phrase incroyable, il faut manger le crâne de l'auteur.
Ça, c'était Michel Bouquet, oui. Premier professeur que j'ai eu et le meilleur.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase pour
Il nous disait il faut lire et relire et relire et relire et relire jusqu'à ce que vous rentriez dans la tête de l'auteur, jusqu'à ce que vous lui mangiez son crâne. Et c'est vrai que toute ma vie j'ai fait ça avec les pièces, à les manger quoi, enfin à les décortiquer, à me les dire tous les jours. Donc il y a des choses, il y a des évidences qui apparaissent. Et c'est d'autant plus, comment dirais-je, c'est d'autant plus fort de faire ça avec des grands textes classiques qui paraissent plus inabordables parce qu'on finit vraiment par rentrer dans la logique de la création de l'auteur. Pourquoi cette scène vient là? Pourquoi ce personnage dit ça?
Et voilà. Ce travail, vous le faites autant pour une pièce contemporaine écrite Brigitte que un classique.
Oui. Et je conseille aux jeunes acteurs d'écouter les cours de Michel Bouquet parce qu'ils existent en disque. C'est génial, c'est mon disque préféré. Enfin, je l'ai pas mis, j'aurais dû le dire, c'est pas de la musique, mais ce que dit Michel Bouquet sur le travail d'acteur, comment il en parle, qu'il faut être au service de l'auteur. Dès qu'on veut essayer d'en faire autre chose, évidemment que le temps est à nous sur scène, que si on a envie de mettre 2 secondes avant de dire une phrase, on peut, mais on ne peut pas trahir l'auteur. Il faut dire les mots de l'auteur. C'est capital. C'est le seul secret, et savoir son texte, bien sûr. Mais ça a l'air simple comme ça, mais c'est vrai. Mmh. Et d'ailleurs, j'adore l'expression apprendre par cœur, parce que ça veut dire apprendre avec le cœur.
Mmh.
Et si on sait, ce que je veux dire, si on, voilà. Et les gens, c'est drôle, ils sont toujours étonnés. Oh, comment vous faites pour apprendre? Mais c'est vrai que c'est la base. Voilà. C'est la base. Et service de l'auteur. Oui. Moi, je déteste quand on change les phrases.
Moi aussi. On est Brigitte, très rigoureuses toutes les deux.
Très. On est à cheval sur les fautes d'orthographe, sur les pires que moi. Ouais. On est. Mais si on dit pas exactement.
J'ai vu votre réaction ne serait-ce que sur les paroles du grand cerf. Déjà, vous avez réagi en disant.
Oui,
voilà,
c'est crié.
On va corriger.
Michel, il nous disait aussi quelque chose que j'ai vraiment, qui m'a beaucoup servi. Il nous disait toujours de chercher le drame dans la comédie et de chercher la comédie dans le drame. Et c'est intéressant parce que sinon on a. Puis, comme Brigitte nous a dit, quoi, ne pas s'alanguir en disant langueur.
Oui, c'est ça.
Et ne jamais mettre deux nez au même clown. Non, mais c'est vrai, quand on fait une connerie, il faut pas en rajouter une par-dessus, parce que ça s'annule. Donc, il faut pas mettre deux nez au même clown.
Joli. Voilà. Les sœurs bien-aimées, fort de tous ces conseils, vous allez sûrement
découvrir... Très mathématique.
Non, mais c'est fort. J'ai presque envie de retourner maintenant voir la pièce, après l'avoir vue mardi soir, à l'aune... Non, mais de tout ce qu'elles ont dit sur leur travail, sur la manière dont elles le vivent, et peut-être même aussi de rentrer dans votre crâne aussi, oui, et de manger celui des actrices et des acteurs. Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifos, c'est à l'affiche des Sœurs Bien-Aimées au Théâtre Antoine, 21h avec des matinées le week-end. Et justement, nous parlons de la fraternité et de la sororité avec vous, Véronique Massé-Jacques. Merci de venir à ce micro.
Merci pour l'invitation.
Vous êtes auteur de 1, 2, 3 frères et sœurs, c'est-à-dire une manière de résoudre les conflits, parce que quand on dit frères et sœurs, on parle d'amour dans un premier temps, mais il y a forcément aussi des conflits.
Il y a des conflits et il y a des jalousies, parce que déjà, la jalousie est inévitable. C'est un sentiment humain naturel, et si les parents peuvent l'atténuer, ils ne pourront jamais totalement le faire disparaître, donc c'est un petit peu difficile.
Faut-il l'atténuer ou au contraire, faut vivre avec en disant c'est normal d'être jaloux ?
Alors, la jalousie, déjà, elle prend naissance dans la peur. On a peur d'être moins aimé de ses parents. Donc si on a face à nous une sœur qui est plus belle, plus grande, plus drôle, plus tout, bah, forcément on va se dire, est-ce que les parents vont la préférer ? Donc oui, les parents ont un rôle déterminant à jouer là-dessus. Il faut qu'ils rassurent leurs enfants et qu'ils prouvent que peu importe les différences, ils aiment tout le monde, mais d'une manière différente.
Est-ce que dans les fratries, le nombre a aussi son importance ? C'est-à-dire avoir une sœur ou en avoir trois change aussi beaucoup les choses. Est-ce qu'il y a des places qui sont plus, entre guillemets, inconfortables entre, on se dit, la petite dernière, c'est toujours la chouchou. La première, bah, c'est elle qui a essuyé tous les essais ou toutes les erreurs. Et c'est celle du milieu qui se dit, j'existe pas.
Valérie,
une réponse. Non, mais c'est exactement ça. Vous avez tout résumé.
J'ai des enfants.
Aucune place n'est meilleure qu'une autre. Il y a des avantages et des inconvénients partout. C'est ce que disait Morgane tout à l'heure. La première, bah voilà, c'est l'essai. C'est quand même l'aîné, c'est ce qui va faire devenir aux adultes des parents. Donc ils vont faire plein d'erreurs avec elle. Elle va essuyer tous les plâtres. Elle va dessiner la route pour les autres qui sera beaucoup plus simple. On va lui demander de montrer l'exemple, d'être responsable.
Elle est l'espoir aussi.
Elle est l'espoir. Elle porte beaucoup de choses. Les parents vont exiger beaucoup plus d'une aînée que les autres. Donc c'est dur à porter. Et puis l'aînée quand même, c'est l'unique enfant qui aura connu ses parents pour elle toute seule. Donc il y aura eu un amour fusionnel et bam, un autre enfant arrive, ça peut être vécu comme un véritable cataclysme.
Est-ce que justement cette aînée ou l'une des grandes sœurs joue aussi le rôle de deuxième maman ou d'exemple à suivre ou de protection lorsque les parents ne sont pas là ?
Alors, tout à fait, parce que quand l'aînée arrive, le premier enfant naît, elle n'a qu'un seul modèle féminin, je parle pour les filles,
maman.
C'est la mère. Quand la petite sœur arrive par derrière, elle voit deux modèles féminins. Il y a la maman et il y a l'aîné. Il se trouve que l'aîné va plus lui ressembler, parce que l'écart d'âge est forcément moindre. Donc oui, la petite sœur, elle va davantage se raccrocher à l'aîné, et elle va essayer de lui ressembler, de la copier. Donc ça peut agacer, ou alors, au contraire, l'aîné peut en être très flatté.
Est-ce que dans la vie, ensuite, d'adulte, ces liens de fraternité, de sororité, peuvent se diluer dans le temps ? Il peut y avoir des secrets de famille, ou des fâcheries avec lesquelles on traîne des rancœurs, ou au contraire, l'amour sera toujours plus fort en majorité. Je veux bien croire qu'il y a toujours évidemment des cas particuliers, on ne peut pas non plus tout...
Il y a de tout, ça dépend si on a été une famille où on a crevé l'abcès rapidement, où les besoins de chacun, les individualités ont été entendus, ça se passera tout de suite mieux. Si on était une famille où on ne parlait pas, où il y a eu des préférences qui ont été vues de la part d'une autre, et bien sûr, les ressentiments, les rancœurs, ça va augmenter et ça peut péter à la figure à un moment donné.
Tout ce que vous venez de dire sur le rapport entre sœurs s'applique aussi dans le rapport entre frères, ou alors, ça sera le sujet d'une autre émission.
Alors, je peux revenir avec plaisir, Nagui. Il y a une petite différence, évidemment, c'est le sexe. C'est-à-dire que on peut plus facilement se comparer avec une sœur si on est une fille. Et il y a toujours une différence dans l'éducation entre un garçon et une fille, quoi qu'on en dise, même si ça s'apaise avec les aînés. Et donc, une fille pourra se dire, tiens, si mon frère a des droits, des privilèges qui sont différents des miens, c'est parce que c'est un garçon. Alors que quand c'est une fille, on se dira, mais pourquoi elle a un traitement différent ? C'est parce que mes parents l'aiment plus que moi, finalement.
Ouais.
Donc c'est ça la grosse différence.
Et on en revient à la jalousie. Merci beaucoup Véronique Massé-Jacques. Je rappelle, c'est aux éditions Erol que vous avez signé 1, 2, 3, frères et sœurs. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler d'une étude de l'INSEE qui dit que les Français répondent de moins en moins au téléphone. Nagui, tous mes appels un peu hot la nuit, jamais vous décrochez.
Non, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Ne pas déranger. J'ai
mais ouais.
Isabelle Gélina, c'est Valérie Mercier, ils sont avec nous jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Morgane Cadignan, Florence Mendes, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités Isabelle Gélina et Valérie Lemercier. Et cette pièce, donc, jouée au Théâtre Antoine, Les Sœurs Bien-Aimées, une comédie de Brigitte Buc, une comédie avec un auteur qui fait la mise en scène et en plus qui est, que vous connaissez, intime, que vous connaissez d'ailleurs chacune dans votre coin et puis là maintenant réunis ensemble. Lorsque l'on joue une pièce contemporaine avec l'auteur, est-ce qu'on y apporte quelque chose? Est-ce qu'on propose des choses? Est-ce qu'on la modifie au fur et à mesure qu'on la joue? Ou au contraire, une fois qu'on a accepté le rôle, on est, j'allais dire, dans le respect du texte.
On est au service de l'auteur et on est toutes les deux effectivement très à cheval sur l'écriture de Brigitte, pas abîmer son écriture qui est très pure, très belle, très sensible.
Voilà, mais comme elle est là et qu'elle assiste et qu'elle nous a mise en scène, parfois, elle s'est aperçue de choses à couper, et quand on a l'auteur sous la main en plus, et que c'est l'auteur qui fait la mise en scène,
c'est très pratique.
C'est vraiment, bah oui, parce que parfois il y a des choses qui sont évidentes et qui ne le sont pas sur le papier, et des choses qu'on comprend pas. À un moment, elle a une robe et je lui dis c'est quoi cette robe, et elle me dit tu te souviens de ce qu'elle disait, et on considère qu'on a compris de qui
la
on
mère.
Parlait
que c'était
et
la robe de la mère,
et oui. Ben si on dit pas
ben ça, vous compris. Aviez compris que c'était la,
ah,
robe,
oui,
de la
compris, c'est la robe de la mère,
ah, bravo. Bravo, mais parce que tu l'as dit déjà ce jour là
non, pas encore.
Bon, bah vous êtes très intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est des petites choses comme ça.
Non, parce que
j'ai dansé la lambada. Hein.
On sent, ouais, j'ai dansé quand même la lambada.
Ouais, c'est pas rien.
Non, mais on sent que le poids de l'héritage de la mère dans tous les sens du terme est très présent dans la pièce. Donc on comprend aussi les allusions, les références. Il y a ce matelas qui, c'est une
vanne. Le radeau de la méduse, dit Brigitte.
Oui, sans la méduse, extrêmement morbide. Puisqu'il
a assisté à pas mal.
Il en a vu pas mal.
Il en a fait mourir plus d'un.
C'est extrêmement drôle. Il y a cet humour noir, il y a cette tension entre vous, et puis cet amour extrêmement fort, sans dévoiler évidemment les retournements de situation ou les chutes dans cette pièce de théâtre. On parle beaucoup de théâtre évidemment pour ces sœurs bien-aimées au Théâtre Antoine. Évoquons quand même le cinéma et ces nominations qui sont tombées hier, oui. Puisque là aussi Brigitte Buc et vous Valérie, vous êtes concernées.
On a écrit
concernées.
Le scénario d'Aline ensemble, oui.
Et donc nommé pour être le meilleur film, nommé pour être le meilleur scénario, nommé pour être la meilleure actrice, nommé pour être la meilleure actrice de second rôle
pour Daniel Fichot, ça.
Exactement.
C'était la grande joie.
Pareil pour Sylvain Marcel, oui. En César du meilleur acteur, pareil pour le son, les costumes, les décors.
Meilleure réalisatrice,
oui.
Valérie.
Et c'est un truc de fou.
Mais
c'est 10
on n'est pas à l'abri de rester le cul sur sa chaise. Ça s'est arrivé. Il y a plein de gens qui ont été nommés plusieurs fois et qui ne se sont jamais levés. Donc,
mais
on est très contents d'être.
On est
nommés.
D'accord que c'est déjà une première victoire.
Ouais. C'est super. C'est super. Je
c'est
suis
même 10
victoires.
Tellement.
Alors, moi, mon, évidemment, pour tout le monde, mais j'ai eu un grand bonheur de voir que, et Daniel Fichot, qui joue la mère d'Aline, et Sylvain Marcel, qui joue Guy Claude, son manager et mari, qui sont tellement bons. Et qui sont merveilleux, et tous ces acteurs québécois ont apporté énormément au film, ça a fait un bond avec eux, et donc qu'ils soient nommés alors qu'ils sont québécois, alors que avant le film, avant le 10 novembre, personne n'en avait entendu parler,
ouais.
Que Daniel Fichot, elle est prof de théâtre, et même dans son propre pays, c'est la première fois qu'elle a un si grand rôle. Elle m'a envoyé un message hier, elle m'a dit « Mon gros bébé, je crois bien que t'as changé ma vie. Bah, » Je suis tellement heureuse de ça, parce qu'elle a toujours enseigné le théâtre. Et c'est la première fois qu'elle a un rôle, et maintenant elle a eu un autre rôle. Et enfin voilà, j'étais évidemment que je suis très contente, parce que c'est tellement mérité, les décors, les costumes. Mais ces acteurs, moi je fais des films pour les acteurs, et ils ont tellement apporté à ces deux grands rôles, parce que c'est un trio ce film. C'est trois personnes qui réparent quelque chose de cassé. Une petite qui n'aurait pas dû naître, une mère qui a failli faire passer sa gamine et qu'elle naisse pas, Et un mec, dont j'arrive dans sa vie, il a plus de boulot, plus rien. Il veut changer de métier. Donc, c'est la volonté de ces trois personnages a fait cette grande carrière qu'on connaît, énorme. Et c'est toutes ces grandes chansons et tout. Enfin, voilà. C'est une grande histoire d'amour entre ces trois personnes. Et donc, je suis heureuse.
Quand on entend.
Qu'ils soient nommés, les trois.
Oui, j'entends. Et quand on entend surtout la tendresse, l'affection que vous mettez à en parler, on sent que c'est quelque chose qui est encore collé à votre peau et tatoué à vie.
Ouais. Je me suis d'ailleurs fait tatouer tous les frères et sœurs de Céline dans mon estomac. C'est vrai ?
Tous, même ceux qui n'ont pas été tendres avec vous, parce que...
Alors, j'ai essayé de les détatouer, c'est compliqué. Et
là, ça pique.
Dans l'émission de Julie Snyder, ils n'ont pas été tendres avec vous.
C'est Julie Snyder qui les a infiltrés dans une projection après le début, les a exfiltrés avant la fin, pour faire un peu de buzz et tout ça. Il y a d'autres frères et sœurs qui ont beaucoup aimé, mais ils ne l'ont pas dit publiquement, donc je ne peux pas dire qui, mais et des gens de la famille de René Angélil. Et voilà, c'est une grande famille, ils n'ont pas tous le même avis, et voilà, c'est sûr que c'était pas très agréable, la fin de mon séjour québécois, voilà, on va dire ça.
Ouais, mais c'est le souci du bad buzz, c'est le truc à la mode, c'est-à-dire qu'on aime faire clasher les gens et les énerver, parce
voilà,
que ça fait parler.
Mais je ne suis pas de la chair à télévision, je ne suis pas une comment dire, je ne suis pas une candidate à Occupation Double, qui est une télé-réalité québécoise. Ça consiste à prendre des gens, leur
non, mais vous
faire
avez une,
boire
vous
du
avez une
vin et que ça se frite et que ça se chicane, comme on dit là-bas.
C'est ça. Mais vous avez une sensibilité, j'imagine, qu'elle a dû évidemment être bouleversée par ce genre de situation.
Oui, parce ça m'a fait
quel
plus
intérêt.
Que de la peine, surtout que ça a divisé les gens, parce qu'il y avait les intellos qui disaient « ils n'ont rien compris ». Et eux, enfin voilà, donc je n'ai rien absolument contre eux. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas retrouver des gens qui sont pas là. Et c'est Daniel Thompson qui m'a expliqué ça. Comment elle s'appelle? Grace Kelly, il y a eu un documentaire sur elle. Oui. C'était un documentaire, c'était elle. Elle se voit arriver, elle voit le documentaire et elle a dit, je n'ai jamais mis ce chapeau. Or, c'était elle. Et on ne peut pas jamais se reconnaître. Et Charlie Chaplin, il est allé à un concours de sosie de Charlie Chaplin, il n'est pas arrivé premier, il est arrivé troisième. Ce que je veux dire, c'est que la vérité...
Adèle aussi a fait ça, un concours de sosie vocale. Et...
Voilà, donc, elle... Par exemple, cette sœur, elle peut pas... Évidemment que Danielle Fichaud ne ressemble pas exactement à sa mère qu'elle a perdue.
Vous l'avez expliqué 25 000 fois que c'était largement inspiré sans être exactement...
Voilà, et j'ai fait des pas de côté.
C'est un film.
Et évidemment qu'elle a eu 15 maisons et que dans le film, on en voit que 3. Et il y a aussi des gens qui me disent comment, il n'y a pas Jean-Jacques Goldman. Non, ça parle que de l'histoire d'amour. On ne peut pas...
Est-ce que...
Sinon, on va sur Wikipédia et puis on peut tout savoir sur ces
lignes. Est-ce que ces 10 nominations en attendant la soirée, j'imagine, avec impatience. Est-ce que ces 10 nominations donnent un deuxième souffle au film qui a déjà fait 1,5 million d'entrées ? Il y a encore quelques salles.
Et encore quelques salles
qui le projettent. Est-ce que c'est pour vous aussi une formidable occasion, justement, d'en reparler, de redonner ? Vous pensez qu'il y a des gens qui vont avoir nouveau l'envie d'y aller ?
J'espère, parce qu'il y a aussi, c'est curieux, il y a aussi des gens, je sais pas, peut-être voilà, il y a peut-être des gens qui vont y aller parce qu'il y a un petit peu d'éclairage nouveau.
Il y a un bon buzz, c'est-à-dire que là, avoir 10 nominations dans autant de catégories,
mais elles sont archi méritées, si je peux me permettre.
C'est pas naïf.
C'est un grand film.
Clairement. Cette Aline, donc, comment vous allez faire pour être et au César et au théâtre, ça tombe.
Je ne joue pas. On a annulé la représentation, c'est-à-dire que Stéphanie Bataille, qui dirige le théâtre, a accepté qu'on ne joue pas ce soir-là.
C'est donc le 25 février.
Le 25 février. Ouais. Par contre, nous jouons le 14 février, qui est un lundi.
Pour la Saint-Valentin.
Pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai troqué
mon
César pour faire plaisir aux amoureux. Si mes collègues étaient OK. Mais donc, voilà. Donc, ils sont gentils, ils m'ont laissé partir.
C'est chic. Voilà. C'est la troupe. Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo, les sœurs bien aimées, pas le 25 février, mais le 14, et sinon le reste du temps, jusqu'au mois de mai, au théâtre Antoine. Voici Monsieur Pascal.
Je peux pas répondre, je suis à l'antenne. Non, Madame Bloch, écoutez, Madame la directrice, je ne prendrai pas la tranche 9h-23h sur France Inter la saison prochaine. Enfin, j'ai une vie. Appelez Manuel Valls. Oh là là, ce que c'est pénible, le téléphone, j'en peux plus. Le pire, ce sont ces gens dans la rue qui parlent avec des écouteurs sans fil. Au début, je croyais qu'ils s'adressaient à moi. Quand quelqu'un disait « je te quitte », je me mettais à crier « quoi ? Mais on n'a même pas entamé notre histoire, tu m'as cru si facile que tu pouvais me jeter avant même de m'avoir exploré, salaud ! Tous les mêmes !» Je criais « désormais, je me lève et je me casse !» j'ajoutais. Mais bon, personne n'a plus la référence, tout va si vite. Vous vous rendez compte que Pikachu a déjà 25 ans ? Le petit Jordi, 34. Les dents de Joe Biden, 3. Une vie, ça file, ça passe en un clin d'œil. Un jour, vous êtes Loane, le lendemain, Elisabeth Borne. Avec le téléphone, on gaspille ce temps précieux. Et puis, qui appeler ? Des gens de sa famille ? Ça sert à rien, c'est un public captif. Ils vont pas se barrer. À part Xavier Dupont de Ligonnès qui a exprimé son ras-le-bol de manière trop honnête, votre famille est avec vous pour la vie. Son dealer de shit ? Ça fait longtemps que ces gens sont passés à WhatsApp. Daniel Morin m'a dit ça. Moi, je ne décroche plus le téléphone. On n'est pas en 2022 pour se parler. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas le choix. Si un aigle vous attaquait, vous étiez bien content qu'un pote vous dise « Attention, derrière toi, montre-lui que tu n'es pas un lapin !» Et là, on avait 20 secondes pour faire des petites crottes carrées, surtout pas rondes. Hein. Mais aujourd'hui, les aigles, ils sont au Puy du Fou, ils volent autour de Philippe de Villiers, qui dit à Éric Zemmour, devant le spectacle « La troupe des baladins malins ». Tu vois, cœur, ça, c'est la France qu'on aime. Moi, je réponds qu'au numéro que je connais, ce qui fait que je rate tous les appels des livreurs Amazon. Ils me laissent un message, mais le temps que je l'écoute, ils sont partis, parce qu'ils sont jeunes, dynamiques, à vélo, ils font des pointes à 80 km/h. Le mien, c'est le Père Noël, il peut livrer toute une ville en 20 minutes. Non mais ça leur fait un corps musclé. La moitié des colis que je commande, c'est juste pour mater le boule du mien. Et je suis hétéro, donc j'imagine que le salon des gays doit être rempli de colis Amazon non ouverts jusqu'au plafond pour aller à la cuisine. Ils doivent lâcher une taupe qui creuse et la suivre. Alors, pourquoi est-ce que je ne réponds pas au téléphone ? Eh bien déjà parce que j'estime que les compliments, Nagui, vous pourriez me les faire de visu. Nagui, tu es ma référence ultime, tous ces messages. C'est mais vrai. Vous n'avez pas de filtre. Je suis dans les WC, ma femme dort, je te fais des bisous. Mais enfin, arrêtez. Et puis moi, j'aime l'écrit. Je trouve qu'en un SMS, on exprime tout. Au lieu de s'éterniser à dire « c'est pas toi qui as changé, c'est moi, surtout reste comme tu es, je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui mérite vraiment », on peut écrire « adieu, je te laisse le petit, par contre je prends le chien, il y a moins de devoirs de maths ». C'est clair, c'est net. Mais je suis pas le seul à pas répondre. Une étude de l'INSEE parue cette semaine dit que 30% des Français ne répondent que s'ils connaissent le numéro. Mais je pense que ce sont des vieux comme moi. Le côté « oui, j'aime découvrir l'autre dans toutes ses aspérités », ça va quand t'as 25 ans. À 50, t'en peux plus, des gens, ça va quoi. La vie, c'est pas un film de Cédric Clapiche. Moi, une espagnole de 20 ans qui viendrait m'aborder, je lui dirais « non mais ça va faire comme avec Victoria Abril, tu vas commencer à tchatcher, ça va durer la journée, ton intensité canalise-la à Barcelone. Ici, t'es à Paris, ville musée, le bâtiment le plus récent date de 1860, laisse-nous kiffer l'absence de vibe avec Édouard Balladur. » Mais les gens sont décevants. Parfois, vous voyez ici, on se fait tout un truc en disant « ouais, il va y avoir Régine en invité, quelle vie, on va prendre de la coke. » Et là, elle arrive sur brancard en disant « pardon, j'ai glissé sur mon Yorkshire. » Mais moi, je ne répondrai plus au téléphone que si Jean-Jacques Goldman m'appelle. Parce qu'il est à la retraite. Donc je suis certain que ce sera pas pour me faire participer au spectacle des enfoirés, qui méritent bien leur nom quand on voit ce qu'ils ont fait à la musique. Pourquoi Goldman ? Eh ben parce que c'était mon idole d'enfance. Je parle de lui dans mon spectacle, à la fin je mets une chanson de lui, comme ça ceux qui n'ont pas aimé disent au moins il y a eu Goldman. Hein ? Mais le souci, c'est que j'ai pas son numéro. Donc s'il m'appelle, je penserais que c'est un livreur Amazon, voilà. Et je serais là sur le perron de ma villa à attendre de voir son cul, alors Goldman est en train de me joindre. Enfin, n'importe quoi. Donc 30% des Français ne répondent que s'ils connaissent le numéro. Moi, je fais pire. Je ne réponds aux gens dans la vie que si je les connais. Véritablement. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai voulu acheter une baguette tradie dans une nouvelle boulangerie. J'ai tenu 7 heures, la bouche fermée, tandis que la dame me demandait ce que je voulais. Voilà. Et donc, l'étude de l'INSEE le dit, on se tourne vers l'écrit, SMS, Messenger, Snapchat. Parce que c'est simple, avec les emojis, si je veux valider un truc, je mets un pouce. Mais si en pleine conversation téléphonique, je crie pouce, mon interlocuteur va penser qu'on joue à chat. Il va grimper sur sa commode, ça va finir en accident domestique. Pareil, lors d'une conversation sensuelle, si vous criez aubergine, la personne va rediriger vers le magasin La Vie Claire. Et ça, ce retour de l'écrit, j'adore. Moi qui suis un littéraire, j'ai quand même lu tous les schtroumpfs. Hein, et un jour, Albert Camus. Mais comme je suis habitué à lire en schtroumpf, j'avais remplacé la plupart des mots par schtroumpf. Hein, ça faisait aujourd'hui schtroumpf et schtroumpf, ou peut-être hier, je ne schtroumpf pas. Vous reconnaissez ? Ouais, c'est son bouquin, le schtroumpf.
Absolument, oui.
Voilà. Attendez, pardon, ça vient. Ah. Allô ? Non, Madame Bloch, je ne suis pas dispo. Appelez Jean Castex, il sera libre fin avril.
Oh, merci, Tommy Passo.
Voilà, désolé. Adieu.
Valérie Lemercier, Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo, les sœurs bien-aimées après avoir grandi ensemble, s'aimer passionnément et la grande sœur ayant presque élevé aussi en deuxième maman, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sa petite sœur. Cette histoire d'amour-là crée des tensions puisque l'une est partie de mener une vie parisienne qualifiée de bobo. Elle revient dans la campagne voir les chèvres de l'authentique. Vous le dites d'ailleurs sur un ton extrêmement moqueur. Et à propos du ton d'ailleurs,
le langage n'est pas châtié, c'est-à-dire que vous aimez, vous adorez balancer des gros mots.
C'est écrit comme ça, elle dit, ma sœur de moi, que j'ai un petit peu le syndrome de Tourette, c'est quelqu'un qui est devenu un peu en colère et qui jure comme un charretier, qui dit beaucoup de gros mots, c'est mon personnage.
C'est du sur-mesure aussi, vous aimez ça?
Non, alors la pièce n'a pas été écrite pour moi.
Ah bon?
Non, elle a été écrite pour une autre, et il se trouve que quand on écrivait Aline avec Brigitte, il y a eu un désistement pour une lecture. Et je me suis retrouvée à lire avec Isabelle cette pièce, et j'ai eu envie de la jouer le jour même. Voilà ce qui s'est passé.
Mais
c'est pas écrit. Après, quand j'ai dit que j'allais la jouer, elle a un peu réécrit, etc. Mais ce Tourette de Michel était déjà écrit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui...
Même
qui
sans rien dévoiler, le décor, on a l'impression, est fait sur mesure aussi. De l'importance de votre taille et point de suspension. Parce que... Si, oui, dans le décor. Si.
Bon, ah bon, j'ai pas compris.
Si. À un moment donné, le décor est fait sur mesure.
Vous voulez dire que les portes sont trop petites pour moi?
Bah, je voulais pas le dire.
Mais on peut le dire. Okay, c'est
d'accord.
Pas grave.
Ok, d'accord.
Et je me cogne tous les soirs. Très, très mal.
C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Mais on rit de voir les autres souffrir. Hein. C'est le principe aussi
c'est
du
vrai.
Drame et de la comédie.
Voilà.
Et de la chanson aussi, parce que vous vous lâchez, Isabelle.
Es la historia de un amour.
Ah oui.
Vous m'aviez caché ça, vous voulez pas faire Taratata? Vous chantez à tue-tête, désespéré.
Je chante à tue-tête en pleurant.
Ouais, c'est ça.
Et plus je chante fort, plus Brigitte apprécie. Donc je chante très fort. Non, j'essaie de chanter juste, mais...
Tu chantes juste.
En pleurant et en criant.
Mais oui,
et en
c'est ça qui est drôle.
C'est ça.
C'est parce que voilà, il faut faire rire en pleurant, ce qui n'est pas si... Et c'est vrai que le fait qu'elle chante cette chanson en mettant un peu de pathos, en aimant un peu pleurer...
Oui. Elle a besoin de pleurer.
Parfois, on écoute des chansons pour pleurer et c'est assez jouissif, en fait.
En tout cas, c'est une pièce qui parle de deux sœurs, mais qui va parler à toutes les familles, à toutes les fratries, et à toutes les... soit les secrets de famille, soit les non-dits, soit le véritable amour filial, paternel, fraternel... de frangine, tout ce que l'on peut imaginer.
Et c'est une comédie.
Et oui, on l'a dit.
Ouais.
On l'a compris. Voici Daniel Morat, le héros du jour. Allez, mon Daniel.
Allez,
on lâche rien.
Et mon héros du jour, très chers amis, aurait très bien pu
être un fromage.
Vladimir Poutine.
Ah, d'accord, ok.
Pourquoi? Oui. Vlad le Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il était à deux doigts d'envahir l'Ukraine et de montrer au monde c'est qui Papa Vladou. Mais de montrer que la démocratie est un régime de faibles et que par la violence on obtient les choses plus facilement, plus clairement en tout cas. Et qu'est-ce que j'apprends hier? Dans la crise ukrainienne, Moscou envoie un bon signal. Il se dégonfle, mon Vladimir. Il a perdu la grinta, mon Grizzly. Du coup, vous pensez bien que, quasi automatiquement, il n'est plus dans la course au titre de héros du jour. Non, mon héros maintenant, c'est Manuel Valls. Parfaitement, Manuel Valls. Pourquoi? Eh bien, parce que dans une interview, l'ancien Premier ministre se livre à cœur ouvert sur son passé. Il évoque une période difficile de sa vie. Il est la cible de deux agressions en 2016 et 2017. Il est battu à la primaire par Benoît Hamon. Sur le plan privé, comment que ça va à l'époque? Ça va pas fort, il divorce. Il ressent également le rejet des Français et déclare « Si je continuais dans la même direction, de la même manière, je pouvais me briser. J'ai saisi cette occasion qui m'était offerte d'aller à Barcelone pour me reconstruire. » Et il l'a fait, Manu. Oui, il était tombé, il s'était cogné, mais il s'est relevé. Manuel agressé, Manuel piétiné, Manuel humilié, Manuel tambouriné, mais Manuel relevé. Il prend la direction de l'Espagne. Oui, l'Espagne, le tiers-monde de l'Europe. Là-bas, l'évolution de l'espèce, c'est pas une autoroute, mais il s'en fout. Manuel, il ira à Barcelone façon pénitent, comme sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, quitte à arriver en guenille, les pieds en sang. Une fois à Barcelone, il fait quoi, Manuel? Ben, il se refait la cerise, mon Manu. Le soleil et l'air marin, ça lui fait du bien. Tapas, paddle, bronzette, il n'en fallait pas plus. C'est un Manuel nouveau qui s'épanouit aux abords des Ramblas. Il se met au flamenco, il parle au taureau. Il a retrouvé la niaque, mon Manu. Il a retrouvé son mojo. Alors évidemment, quand tu te sens revivre loin de chez toi, tu penses à quoi? Tu veux revenir pour prendre ta revanche. Revenir et montrer à tous ceux qui t'ont causé misère que tu es de retour. Et le torse bombé qui plus est. Et c'est pour ça que, tout de suite.
Non.
Maintenant.
Non, pas là.
J'en appelle de façon solennelle.
Pas maintenant.
À Emmanuel Macron.
Mais laisse-le tranquille.
Monsieur le Président, je sais que vous nous écoutez. Le peuple français est un peuple mou, un peuple petit joueur qui aime chouiner, qui aime se plaindre pour redonner l'envie. L'envie d'avoir
envie.
Bien sûr, il faut aux Français un exemple éclatant. Prenez Manuel Valls comme ministre du comeback gagnant.
T'es sûr?
Cette fonction n'existe pas. Mais bon, elle ferait tellement de bien à ton peuple usé et désabusé. Manu sera la preuve éclatante qu'on peut avoir un karma de merde, toucher le fond, mais revenir. Revenir et pas n'importe comment, revenir encore plus fort. Comme on dit à Barcelone, « Donde está la mamá de Pedro ?» Vive la France.
Merci Daniel Landry. Et pardon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Tanguy Pastureau, tu seras en spectacle ce soir à Saint-Étienne. Oui. Les Sœurs Bien-Aimées, c'est au théâtre, Antoine, que ce soit ce soir ou tout. Les soirs de la semaine, vous êtes simplement off lundi.
Et le dimanche.
Et le dimanche soir, mais sinon... Le...
Non, on ne joue pas le dimanche.
Oh pardon,
dimanche
je suis désolé. Non. Ok, d'accord, c'est la matinée le samedi.
Oui.
C'est ça. Où il y en a deux, donc, ouais. Dans une même journée. Physiquement, ça doit être quelque chose de particulier à vivre, ça aussi.
On aime bien.
C'est vrai.
Oui.
Vous êtes dans une autre énergie de le faire.
Ouais,
c'est un
truc spécial, mais moi on a découvert que tous les trois on aimait ça. Ouais. C'est particulier, c'est une journée un peu longue, mais c'est marrant.
En tout cas, il y a Patrick Catalifo qui joue aussi avec vous et vous aviez partagé déjà des Crimes parfaits, me semble-t-il.
Crimes parfaits, L'amour est enfant de salaud en tournée, Le père.
Ouais, bien sûr.
Oui, on a fait pas mal de choses ensemble.
Je voulais simplement préciser une chose. Hier, nous avons évoqué le film de Sandrine Kiberlin qui a des scènes tournées au théâtre Antoine. Ça parle de l'occupation.
J'ai hâte de le voir.
Il est formidable, il est émouvant. Il est émouvant et formidable. Et je voulais évoquer Marceline Loridan-Ivens, qui est une rescapée d'Auschwitz, qui est cinéaste et femme engagée, qui a partagé son expérience de la déportation.
Avec Isabelle Wechstein.
Exactement. Exactement. Et ce soir, dans le cadre de la Journée internationale de la commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste, il y a la parution du livre d'Isabelle Wechstein dont vous parlez, C'était génial de vivre, de Marceline Loridan-Ivens, et la projection du documentaire Après Marceline, qui est réalisé par Antoine Ravon et qui sera projeté ce soir. Je tenais à le préciser parce que c'est cette journée de commémoration et qu'il y avait ce théâtre Antoine qui m'avait fait penser aussi à ce très beau film de Sandrine Kiberlin. J'ai un peu mélangé toutes ces informations là. Mais
on aime bien être mélangés.
C'est lié, c'est la sororité culturelle et intellectuelle. Merci à toutes les deux en tout cas d'être venues à ce micro. Des excuses à présenter peut-être, Daniel.
Alors déjà désolé pour Isabelle Gélinas qui a découvert ce matin que Valérie Lemercier finalement préférait travailler seule et parler avec ses personnages imaginaires et en plus n'aimait pas offrir de cadeaux aux autres. C'est rude mais bon, ça a le mérite d'être honnête. Désolé pour Morgane, j'ai eu ta sœur au téléphone.
Anna.
Alors ouais Anna, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elle ne veut plus te voir. La bonne, c'est, et tu la verras quand même, parce que comme tu m'as toujours dit non, je vais l'épouser. Désolé pour les fans de Valérie Lemercier qui auraient aimé donner comme prénom à leurs enfants ceux des sœurs Lemercier. Alors je le rappelle, ça donne ça quand même.
Glinch Clench, My Line is Grandstre, Your Fucking Big String, Besk, Amiquis, Miquis, Atenis, Tennis, Ah là 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 là.
Bon, c'est joli.
Ou Six O'Clock, j'ai oublié.
C'est joli, mais ça va pas avec tous les noms de famille.
Non, ça marche pas.
Si ça vous dit, allez-y quand même.
Les Sœurs Bien-Aimées au théâtre Antoine, Isabelle Gélinas, Valérie Lemercier, avec Patrick Catalifo. Merci, mesdames, d'être venues. Demain, c'est Pierre Lemaitre qui sera notre invité. Bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe. Voilà.